Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, même, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Mais il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux. Aller chercher les gens qui ne veulent pas, qui se refusent, par pudeur. Comme ça, lentement. On ne peut pas tricher.
Un invité.
Partez à sa rencontre. Prenez le temps de partager.
L'instant 2
sur Radio Grenouille.
Que reste-t-il de tout cela? Que reste-t-il des mots qui blessent, des débats souvent stériles qui ont secoué la France des pour et contre le mariage pour tous? Que reste-t-il des couples qui se sont mariés sans heurts, sans bruit, sans haine finalement? C'est la force du documentaire, je crois, à l'heure où s'achève le Festival du cinéma du réel à Paris, de laisser une trace de ce qui a été pour mieux comprendre ce qui est aujourd'hui et ce qui sera demain. Étienne Chailloux et Mathias Théry, mes deux invités, se sont intéressés à ce sujet d'une manière tout à fait originale, mettre en scène de petits personnages, nounours et autres marionnettes de tissu pour rendre compte des discussions autour du mariage pour tous. Comme pour dépassionner le propos et rendre les arguments des uns et des autres un peu plus lisibles, Paris réussit dans ce documentaire étonnant la sociologue et l'ourson qui nous aide à appréhender plus justement le concept multiple et compliqué, on ne se le cache pas, de famille. Le film vient tout juste de sortir en salle et nous avons choisi de le décortiquer à coups d'ours en peluche, de pourquoi et de légèreté dans cette émission. Un plan à trois dans l'instant 2, donc en tout bien tout honneur, sans se découvrir d'un fil puisque nous sommes déjà en avril, bienvenue à vous tous.
Un moment, s'il vous plaît.
Je me représente même plus quelles étaient nos discussions au téléphone. C'est quand tu me faisais parler de ma famille, non?
Ouais, quand tu me parlais de ta grand-mère, de ta famille, mais aussi de plein d'autres choses. Des évolutions du mariage, des couples homosexuels, de comment on fait les enfants, surtout quand on n'y arrive pas, de l'évolution des mœurs à travers l'histoire... des mères porteuses, tout ce que tu m'as raconté, quoi.
Tout ce que votre maman vous a raconté, Mathias Théry, c'est vous qu'on entend dans la bande-annonce. Bonjour. Alors, c'est marrant parce que ce qui est intéressant, c'est que dans cette bande-annonce, il y a le pitch du film, quoi. Voilà, tous les sujets qu'on aborde dans le film, ou presque tous, sont dans ce qu'on vient d'entendre.
En effet, la bande-annonce, c'est l'enregistrement du moment où on a raconté à ma mère, Irène Théry, Le film une fois qu'il était fini. Il faut savoir que quasiment la moitié du film, on va dire, est fait à partir des discussions au téléphone qu'on a eues pendant les débats sur le mariage pour tous. Donc le film est hybride comme ça. Une partie où on filme les vivants, les humains, et une partie faite à partir de ces discussions téléphoniques où on fait des mises en scène avec des marionnettes.
Est-ce que vous étiez sous quand vous avez pensé faire un documentaire avec des ours en peluche? Vraiment, ça m'a frappé. Mathias ou Étienne Chailloux, bonjour, on ne vous a pas
bonjour.
Dit bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête?
À ce moment-là, il se passait qu'on était aux côtés d'une intellectuelle depuis 2-3 mois et qu'on avait peur d'un discours très très intello.
L'intellectuel, c'est Irène Théry,
voilà.
La sociologue.
On sentait que le sujet touchait tout le monde et on avait envie de parler à tout le monde. Donc on a utilisé un procédé qui... au téléphone, on a demandé à Irène... On n'a rien demandé à Irène. On a
c'est bien de revenir
gardé,
sur... Ça fait 4 ans.
Je reviens un peu, ouais, c'est un peu loin.
Hein. Oui.
On a gardé des conversations téléphoniques le moment où elle parle très simplement à son fils. Parce qu'on avait fait quelques tests en interviewant Irène avec une caméra. Elle prenait rapidement un ton assez professoral. Mmh. Donc on a voulu évacuer ce ton-là, retrouver un ton intime d'une mère qui parle à son fils. Et les marionnettes, on ne se souvient plus exactement comment c'est né. C'est, je pense, un...
Vous étiez donc sous. Je vous charrie.
Non, c'était au cours d'une de nombreuses discussions avec Étienne. On travaille
ensemble.
En discutant énormément. Et donc, les discussions sont nombreuses, surtout à cette période-là qui commençait à être le moment où la France entière se mettait à discuter. Et je me rappelle qu'on avait un certain nombre de problèmes d'écriture, de films. et il fallait qu'on les résolve. Et les marionnettes sont devenues la meilleure des résolutions de tout. C'est-à-dire qu'on est plasticien au départ, on aime faire des films qui soient aussi des vraies créations dans la forme, des vraies expérimentations.
Les arts déco, hein, tous les deux.
Voilà. Hein, ouais. Et en même temps, comme le disait Étienne à l'instant, on a envie de faire des films qui soient accessibles à tout le monde et qui ne soient pas juste pour l'entre-soi, des intellos, du documentaire ou quoi que ce soit.
Qu'est-ce que vous pensez que c'est 2 ans après la promulgation de la loi, parce que c'est quand même ça, hein, la sortie de ce documentaire.
Trois ans.
C'est vrai que 3, même 4 ans après les débats finalement autour du mariage pour tous. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte aujourd'hui et pourquoi le sortir le 6 avril 2016?
Alors, il y a une raison très pratique, c'est on n'a pas pu faire plus vite.
en fait, c'est ça qui est bien dans ces questions, c'est qu'on pense que c'est très précis.
C'est très précis, non, c'est pas calculé. C'est
une question d'argent donc, hein, peut-être.
C'est une question d'argent, on a eu du mal à financer ce film. Donc on a, il y a peut-être un an blanc où on n'avait pas d'argent, on n'a pas travaillé dessus.
Mais c'est tant mieux peut-être.
Et c'est tant mieux. Aujourd'hui on se dit qu'avoir la distance sur cette année, c'est assez intéressant que tout de suite après les débats, je crois que tout le monde en avait un petit peu marre. Et 3 ans, c'est... bon, les débats sont derrière nous, on se surprend à s'apercevoir que c'était une époque déjà un peu ancienne, ce moment-là. Il y a des propos qu'on entend que 3 ans après nous choquent. Ouais. Ça veut dire qu'on a avancé pendant ces 3 ans. Et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on était quand on a construit ce film. On a toujours essayé de se projeter plus tard.
Oui, c'est ce que je disais dans mon introduction. Que reste-t-il de tout cela, Mathias Théry? Qu'est-ce qui reste de tous les débats aujourd'hui?
Bah déjà, il reste ce film. mais c'est parce qu'il est important de préciser que le film se déroule pendant les débats. C'est-à-dire que ce n'est pas un film rétrospectif qu'on décide de se dire qu'est-ce qui s'est dit à l'époque. Le film a été tourné pendant les débats. Tous les enregistrements téléphoniques sont faits pendant les débats. Et donc, on a voulu faire un film qui soit aussi un morceau d'histoire en se disant qu'est-ce qui va rester de cette époque-là.
De témoignage, de traces.
Voilà.
En fait.
Et donc... aujourd'hui, si la question c'est qu'est-ce qui reste, il reste le souvenir d'une époque où ça a beaucoup gueulé. Je pense qu'il reste le souvenir douloureux pour beaucoup de familles homo, même pour beaucoup d'homosexuels, d'une année où l'homophobie est revenue en force. Alors qu'on pensait que c'était quelque chose de...
Je suis pas sûr qu'elle soit revenue en force, je pense qu'elle était là.
Peut-être, mais... ouais, elle est sortie en tout cas.
Elle s'est exprimée
assez librement. Donc ça a été une année, un pas en avant au niveau de la législation, au niveau des droits, mais aussi une année difficile pour beaucoup. Et quand même, moi, je dirais peut-être la naissance d'un débat qu'on n'osait pas avoir et qu'on va devoir continuer à avoir sur des questions qui entourent la famille.
La PMA,
la GPA. Et même, ça nous a fait nous rendre compte que la France est un pays qui a du mal à se retourner sur ces questions privées et à y faire face. C'est-à-dire qu'il y a aussi, je crois, plein d'autres choses. Alors Irène, si elle avait été avec nous, nous aurait mieux expliqué, mais sur notre acceptation de l'évolution de nos mœurs, c'est-à-dire même sur la question des beaux-parents, etc. La législation est en retard sur nos pratiques.
Vous montrez les coulisses hein, de ces débats, enfin, c'est ça que j'ai trouvé intéressant et pas forcément toujours à l'avant-scène. On va justement revenir sur ce moment, allez, on l'ose, historique en termes d'égalité, vous l'avez dit, c'est une partie du discours de Christiane Taubira quand la loi vient de passer. Nous sommes à l'Assemblée nationale, c'est le printemps, les oiseaux chantent, les corps se dévoilent et les voix aussi, écoutez.
En définitive, ce projet de loi nous a conduit à penser autrui, à consentir à l'altérité. Penser autrui, disait Emmanuel Lévinas, relève de l'irréductible inquiétude pour l'autre. C'est ce que nous avons fait tout le long de ce débat.
On sent l'émotion hein, dans la voix de Christiane Taubira et on en parle justement à l'occasion de la sortie du film La sociologue et l'ourson avec mes deux invités réalisateurs, Mathias Théry, Étienne Chailloux, le premier qui prend le micro. Qu'est-ce que vous ressentez quelques années après déjà quand vous écoutez ça, quand vous entendez Christiane Taubira à ce moment-là? Je ne parle pas de politique, juste à ce moment-là. Mathias, peut-être.
Ce que dit Christiane Taubira est très intéressant dans le sens où elle dit... vivre ensemble, c'est vivre en relation avec les autres et c'est accepter la différence de l'autre. C'est-à-dire, elle parle de l'étrangeté.
L'autrui, en fait, l'altérité. l'altérité.
Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, on s'est rendu compte que pendant les débats, en gros, le discours de la manif pour tous était la peur de l'effacement de l'altérité. C'est-à-dire que là, c'était la peur de l'effacement des hommes et des femmes, etc. On disait, eux disaient que ce type de loi visait à effacer un peu les différences, etc. Mmh. Pour dire, voilà, on veut effacer les hommes et face aux femmes, etc. On veut... Alors qu'au contraire, ce que dit Christiane Taubira là, c'est que, au contraire, avec ce type de loi, on prend en compte la différence des autres et on essaye de la faire nôtre. C'est l'inverse de ce que dit la Manif pour tous.
C'est vrai. Est-ce que c'est pas ça le documentaire ? Faire attention à l'autre, porter une attention particulière à autrui ?
Souvent,
Étienne Chaillou ?
Oui, c'est difficile de décrire ce qu'est le documentaire. Hein.
Est-ce que ça peut être une définition,
mais c'est,
en tout cas ?
Beaucoup ça, aller vers l'autre, aller sur des lieux inattendus,
quel
découvrir...
Quel que soit l'autre, hein, d'ailleurs. Là, vous avez vu des manifs pour tous et le mariage pour tous. Enfin, vous avez parlé à tout le monde, hein.
On a parlé à tout le monde. Après, on ne cache pas dans ce film notre position. C'est-à-dire que c'est un dialogue entre une mère et son fils qui sont dans le clan des pour. On était tous les deux pour cette loi. On a choisi d'ailleurs de raconter tout ça aux spectateurs, de ne pas mentir sur nos positions à nous, en essayant de garder tout le temps une position interrogative. De ne pas caricaturer le clan d'en face, d'essayer d'entendre ce qu'il questionne, en essayant d'évacuer aussi ce qu'on considérait être de la communication ou de l'agressivité, quoi. Une position un peu en retrait, quoi.
Vous êtes dans l'instant 2 du mois d'avril depuis Radio Campus Paris avec Mathias Théry et Étienne Chaillou, la sociologue Ilourson. On revient comme un retour sur les débats sur le mariage pour tous et on n'a pas fini d'en parler.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.
On a essayé de comprendre pourquoi tout le monde en France s'est engueulé pendant un an sur le mariage homo.
C'est vous qu'on entend encore, hein, Mathias Théry. Ouais. Pourquoi on s'est engueulé autant, selon vous, en tant que réalisateur, fils de sociologue aussi, sur le mariage pour tous ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, en tout cas, ce que disait un peu Étienne à l'instant, c'est qu'on a essayé de décortiquer un peu cette année-là en nous disant s'il y a une telle protestation, c'est qu'au fond aussi, il y a des questions que la France entière n'a pas voulu traiter jusque-là, n'a pas voulu regarder en face. Et on a essayé, nous, avec ce film, de quand même dégager quelques questions importantes qui étaient sûrement dans les esprits à cette époque. Parce que ce n'était pas qu'une question de « je suis pour, je suis contre ». Parce que le travail d'Irène nous montre c'est un vrai travail de comprendre nos propres évolutions. C'est un vrai travail de comprendre que nos familles, les familles de notre génération ne sont pas les mêmes que les familles de la génération de nos parents et ni de nos grands-parents et qu'il faut comprendre notre propre histoire pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, on essaye de, avec le film de nous emparer de tout le savoir historique, je dirais, que Irène amène dans le débat. Donc c'est un vrai éclairage qui va plus loin que simplement l'argument de l'égalité.
Ouais, comprendre pourquoi on s'est engueulé, je pense que ça prend beaucoup de temps. C'est ce que le film essaie de faire. Donc, le film dure 1h17. Je pense qu'il ne va même pas au bout de la réponse.
Il y a beaucoup de questions encore à la fin, bien sûr.
Ce film est presque juste une invitation à la réflexion. Après, Irène raconte beaucoup de choses dans ce film. Et on essaie de faire différents balayages successifs de l'histoire sur différents sujets pour essayer de mieux comprendre... des évolutions parallèles. Je vais m'expliquer.
Allez-y, Étienne.
Par exemple, elle va raconter...
Vous ne le voyez pas, mais il a les yeux en l'air en se disant « Comment je vais simplifier cette phrase ?»
Non, c'est vraiment tout le principe des explications d'Irène dans ce film. C'était de raconter des fragments historiques sur un sujet donné. Par exemple, l'histoire du mariage. Donc, on va raconter le statut du mariage au XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ce qui signifiait à l'époque et ce qui signifie aujourd'hui. Et à chaque génération, on va se demander quel statut il a, qu'est-ce qu'il signifie quoi, pour la population française. On va raconter aussi l'histoire des luttes homosexuelles qui passent d'un moment où les homosexuels étaient complètement rejetés, cachées, avaient des pratiques interdites oui, et clandestines, ça. Jusqu'à aujourd'hui où ils revendiquent de faire famille et ont des enfants. Donc c'est différentes trajectoires. On a besoin de regarder tout ça pour comprendre un peu pourquoi on s'est engueulé. Comme disait Mathias, il y avait plein de questions qui étaient jamais arrivées sur le tapis cette année-là. Cette loi les a déclenchés.
Alors, vous parlez beaucoup d'Irène Théry, hein, c'est votre maman, Mathias. Effectivement, elle fait partie du film, elle est presque un personnage principal de ce documentaire. On va reparler de ce rôle-là qu'elle a. Elle est aussi directrice d'études à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, et spécialisée dans la sociologie de la famille, ce qui peut aider hein, quand on a quelqu'un comme ça pour faire un film comme la sociologue et l'ourson. Et je crois qu'elle est en ligne avec nous. Bonjour Irène.
Bonjour.
Ah, merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait un vrai écho dans le film. On est vraiment en direct. On n'a pas pris d'extrait du documentaire.
Allô, Radio Grenouille.
Allô, maman Bobo. On pourrait dire ça comme ça. Irène, ça fait quoi d'être une marionnette dans un documentaire?
Ça surprend d'abord. c'est une petite épreuve d'une certaine façon, je dirais, hein, parce que c'est un peu l'inverse de tout ce que j'ai fait auparavant. Où j'ai passé beaucoup de temps à expliquer qu'il fallait être sérieux, que mon sujet, la question de la famille, la question des rapports de genre, masculin-féminin, c'était des questions sérieuses, des questions qui avaient de la noblesse intellectuelle. Donc c'est sûr qu'il y a une petite épreuve de la marionnette, mais en fait, si je suis vraiment sincère, je dirais que ça fait d'abord énormément plaisir. Voilà. Ouais,
c'est une petite souris, hein, la marionnette, je crois. C'est comme ça que vous représentez votre maman, ours, Mathias
C'est un ours.
C'est pas vrai.
C'est maman ours, on l'appelle.
Ah, maman ours. D'accord. Pourquoi un petit ours, alors?
Parce que l'ours en peluche, c'est le premier objet que le fils s'empare pour raconter les histoires que lui raconte sa mère. C'est un peu comme ça qu'on a pensé le film. On s'est dit, le film raconte comment est-ce que aussi un fils raconte les histoires que lui raconte sa mère.
Comment la génération du dessous s'empare du récit de la génération.
C'est un passage de relais, en effet. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait de la sociologie d'Irène?
Ah oui. Et de maman, du coup.
Et de maman.
Étienne Chailloux, tout à l'heure, disait « C'est bien parce que quand on l'a eu par téléphone, Irène, elle était plus libérée, elle avait une parole moins sérieuse. » Irène Théry, là, vous êtes bien, là. Est-ce que ça vous a libéré de faire ce film, dans votre propre parole d'experte et de sociologue?
Sincèrement, oui, ça m'a rendu... Moi, j'étais assez corsetée, en fait. Par exemple, je n'ai jamais enfreint la règle selon laquelle il ne faut pas mélanger... l'expression publique et la vie privée, par exemple. Même si je sais bien que dans mon travail de sociologue, ma vie privée a eu une influence. Je peux donner un exemple. J'ai inventé, il y a très longtemps maintenant, le terme de famille recomposée. Et je sais bien que mon intérêt pour les familles recomposées était lié au fait qu'on avait nous-mêmes une famille recomposée, qui en est maintenant à la deuxième génération, déjà. Vous voyez, mais jamais je ne l'aurais dit. Et là, c'est vraiment, il a fallu que non seulement Mathias, mais vraiment Étienne et Mathias, ensemble, je crois que c'est très important, aillent un petit peu à l'encontre de mes habitudes, sans vraiment me demander mon avis, sans me tromper, mais sans me demander mon avis, pour que finalement ce film fasse justement ce que je ne faisais jamais. Et oui, ça me libère. Je me sens sincèrement plus libre qu'avant.
Vous avez libéré votre mère. Alors ça, psychanalytiquement, c'est extrêmement intéressant. Mathias, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est l'inverse, hein, a priori.
Moi, je dirais à tous les auditeurs, surtout, écoutez votre mère. Et surtout, ne faites pas ce qu'elle vous dit, voilà.
Ah oui, c'est ça. Oui, parce que souvent, Irène Théry, vous êtes absolument pas d'accord avec votre fils. Alors, c'est marrant parce qu'il a la décence, et Étienne également, son partenaire, de vous filmer, par exemple, quand vous prenez votre café à la maison en pyjama, et là, de mettre l'image de la marionnette, ce qui est quand même un peu sympa.
Oui, quand je me lave les cheveux, ils mettent pas la marionnette.
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment moi avec un pull qui a une tache, les cheveux mouillés. C'est très très valorisant.
Au naturel, quoi, finalement. Mais vous êtes toujours sérieuse, vous êtes toujours légitime dans votre rôle, rassurez-vous, quand on voit le film. Est-ce que c'est une sorte de vous le considérez comme une déclaration d'amour et d'admiration de votre fils, ce film-là?
Sincèrement, je pense que c'est pas un film mère-fils. Vous voyez, si c'était un dialogue mère-fils seulement, c'est ça dans le film, dans les personnages. Mais vraiment, pour moi, c'est l'alliance du travail et du regard de Mathias et du regard d'Étienne. D'ailleurs, je me demande si c'est pas Étienne qui a eu l'idée du, qui a eu l'idée de l'ours, tout simplement.
De la réponse, Étienne.
Voilà.
Ça, je sais plus.
Il était sous à ce moment-là, Irène Théry, faut que je vous le dise.
Non, mais je crois qu'il a, c'est assez important que ça soit à la fois intrafamilial et puis avec le regard extérieur. C'est ça qui a fait fonctionner les choses. Mathias venait seul à la maison, enfin à la maison de notre petit appartement de Paris, parce qu'on est quand même des, moi je travaille à Marseille, hein.
Représente, bien sûr. Vous êtes sur Radio Grenouille, hein, Irène, tout va bien.
Et donc je suis sur Radio Grenouille. J'aime vraiment dire que moi, je travaille à l'EHESS, à la Vieille Charité. J'ai habité longtemps à Marseille, maintenant on habite à la campagne, mais donc on a un petit appartement à Paris. Et là Mathias venait seul, mais il était quand même bien. En discussion avec Étienne sur la façon dont il allait faire.
Oui,
c'est vrai que le fait qu'il soit seul faisait qu'on s'oubliait, on oubliait même qu'il était en train de filmer.
Oui, c'est ça. Mathias, une réaction ?
Oui, en effet, c'est pour nous, le lien familial, et notre lien familial est un moyen. Avec Étienne, on avait quand même le désir de faire au départ un film sur la France, sur une période en France, sur un débat français, et donc... on a pensé le film vraiment à l'échelle nationale, et donc la partie intime, familiale, est un moyen plus, c'est la forme.
Au début on ne savait pas d'ailleurs l'ampleur que ça prendrait dans le film, tout ça. On ne savait pas si on parlerait de ta famille ou de...
Et finalement, ouais. Oui.
Finalement,
et ça prend une grosse place dans le film.
C'est un moyen de mise en scène qui nous a beaucoup plu, finalement.
Irène Théry, une dernière petite question, après on vous libère au moment du café. Merci d'être avec nous à nouveau. C'était une petite surprise pour Mathias. Dans cette émission, on aime bien aussi dépasser le rôle du réalisateur, du chanteur, du projet artistique. Si vous deviez me dire en quelques phrases, me parler de Mathias comme si c'était la première fois, ce serait quoi ? Vous le décririez comment, votre fils ? Vous avez le droit d'être vache.
Alors Mathias, c'est notre petit dernier, hein, et il a toujours eu un peu cette place dans la famille, et puis voilà que maintenant c'est par ce film, c'est un peu lui qui prend les rênes des choses. C'est une inversion que je trouve assez géniale, voilà. Et tous ses frères et sœurs et neveux suivent tout ça, et c'est lui qui prend la famille en main grâce à ce film pendant un moment, et c'est un beau retour des choses. Voilà.
Ben voilà, une belle déclaration retour. Irène Théry, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'instant 2 en direct.
Merci beaucoup Radio Grenouille, et puis à bientôt à Marseille.
Ah bah, oh oui, ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Allez, on va continuer en musique ensemble avec le choix musical d'un de nos invités. Je ne sais plus si c'est Mathias ou Étienne, mais on va en parler justement. Ça s'appelle Heavy Cross et c'est Gossip. Les gossips, les ragots, on va en parler dans quelques instants. Vous êtes dans l'instant 2 au mois d'avril. Découvrez-vous de tous vos fils. À tout de suite.
just you. It's already been done, undo it. It takes two, it's up to me and you to prove it.
Ivy Cross sur l'instant 2 sur Radio Grenouille. On est en train de papoter avec nos deux invités de ce mois, les réalisateurs de La Sociologue et l'Ourson, Étienne Chailloux et Mathias Théry. Mathias, vous avez choisi cette chanson, c'est un peu le principe de l'émission. Pourquoi ?
Alors, c'est une chanson qu'on entend dans le film et qu'on entend dans une manif pour tous, donc les manifestations anti-mariage pour tous.
Ah oui.
Alors que c'est un morceau qui est plutôt un hymne LGBT, hein, la chanteuse Beth Ditto se revendique
au-delà
complètement.
Au-delà des gens en plus, hein, elle est un peu.
Elle est, bah, en tout cas, se revendique complètement lesbienne. Elle est mariée depuis avec sa compagne, etc. Et très engagée pour les droits LGBT. Et donc,
c'est
ça nous surprenait d'entendre ça dans les manifestations anti. Et ça montre bien à quel point on a été frappé par la communication de la Manif pour tous, qui s'est emparé de tous les codes de tous les codes LGBT, mais aussi de tous les codes des mouvances qui pouvaient être contre eux. Et ça a été quelque chose d'assez hallucinant, c'est-à-dire il fallait qu'ils soient que leur manifestation ressemble à la Gay Pride. Il fallait qu'ils aient avec eux, on leur disait vous êtes de droite, ils avaient des représentants de gauche, ils trouvaient
des homosexuels qui étaient aussi
contre le mariage.
Les résultats, le discours était complètement brouillé et ça a sans doute participé
à de l'incompréhension.
À l'incompréhension générale, quoi. On comprenait plus rien puisque dans le clan qui était contre le mariage, essayait de réunir à chaque fois des échantillons de gens qui devraient être dans le clan d'en face.
Ouais. Surtout, c'est un plan de com formidable. C'est-à-dire qu'on a été surpris. Ils ont fait les manifestations les mieux organisées de notre siècle.
Alors, le plan de com, il n'a pas toujours tout quadrillé. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques dérapages. On a un petit peu farfouillé en préparant cette émission sur le net, hein, même 2, 3, 4 ans après les débats. Et on a trouvé une petite compilation de Martial Prado. Merci à lui s'il nous entend sur Radio Grenouille. Oreilles sensibles, s'abstenir. On va laisser ouvert les micros. C'est marrant parce que la chanson que vous avez choisie s'appelle Gossip. Enfin, Gossip, c'est ragot. En anglais, écoutez, ça va vous faire du bien de réentendre ça ou pas.
Et cette loi, elle ne respecte pas la dignité humaine.
L'État n'a pas à participer à la normalisation de l'homosexualité.
Je ne blâme pas, mais ça n'est pas naturel.
Dans la Bible, il est dit que c'est une abomination.
Alors ça peut arriver à n'importe... Vous savez, des parents trop... Une mère trop possessive. On rencontre, un professeur, un camarade qui vous entraîne. Mais c'est une déviance.
On voit de plus en plus de gays à la télé, donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait, c'est comme une maladie qui se propage.
La légalisation du mariage homosexuel, l'adoption et la porte ouverte à d'autres revendications comme la légalisation de l'inceste.
C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, même avec des hommes et des animaux. Et
donc on va voir des détournements de mineurs.
J'estime que l'enfant il a besoin d'avoir un papa et une maman. Vous imaginez un petit garçon, une petite fille ? Ça sera lui-même un homosexuel, il deviendra lui-même homosexuel. Autre chose qu'on ne sait pas, c'est que quand l'enfant naît avec deux hommes, qu'un des parents peut partir travailler, le deuxième monsieur, entre parenthèses je mets, hein, qui est lui-même homosexuel, pourra abuser de l'enfant et l'enfant peut être violé. Donc arrêtons, arrêtons ces monstruosités. Pour moi, c'est satanique et diabolique.
On ne peut pas supporter le mariage homosexuel.
Pourquoi est-ce qu'ils se marient, hein? Comme on dit en bon français, qu'ils s'enculent tranquillement dans leur chambre, hein? Et il n'y a pas besoin d'un acte d'état pour s'enculer. On appelle ça en bon français les PD. Bah, bon, faut pas s'en prendre des mines distinguées pour dire les homosexuels, tu veux rien dire, ce sont les PD.
Ça fait partie du mal, oui, mais il y a bien d'autres choses que cela. Disons qu'il fait partie, ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme.
Voilà, c'était cadeau hein, sur Radio Grenouille dans l'instant 2. Alors c'est marrant parce que je voyais mes deux camarades et invités de cette émission. Alors Étienne Chailloux qui se tenait la tête, les yeux, comme ça, la bouche, enfin complètement choqué encore par ces mots-là. Et Mathias qui faisait comme moi, qui prenait des notes, alors avec des petits mots. Moi j'ai noté abomination, inceste, pédophilie, diabolique, déviance, maladie
ouais. Animaux,
zoophilie. Détournement.
Naturel, ça n'est pas naturel.
Satanique.
Bible.
Satanique. Alors, on va en parler de la religion, justement. Juste avant ça, bon, Étienne, je vous ai vu, hein, c'est une petite réaction peut-être.
Oui, c'est des propos qu'on a choisi de ne pas mettre dans le film.
Ça allait être ma question. Voilà. Ils sont assez peu représentés.
Parce que moi, je considère que c'est du fantasme, complètement.
Un fantasme blessant, quand même. Hein,
c'est blessant, mais c'est des gens, tout simplement, qui n'ont pas rencontré des personnes homosexuelles qui ne se représentent pas du tout la réalité. Donc, c'est des fantasmes.
Ouais c'est Mathias. Des fantasmes. C'est des restes d'un ancien temps aussi. On sait qu'en France, l'homosexualité était considérée comme une maladie. On voit qu'on est encore sous l'influence des générations précédentes qui regardaient ça d'un œil très mauvais. Mais on pense que la France évolue beaucoup plus vite que les quelques personnes qu'on a entendues là.
Mmh. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été trop représentés par les communications, par les médias notamment?
Parce que ça claque des propos comme ça. Ouais. Donc je pense que les médias les ont racontés quoi. Je me souviens puisque on est effaré, du coup c'est spectaculaire. On sait très bien que le monde médiatique aime le spectaculaire.
En effet, on a des perles et on a été chercher le pire. Venant de personnes, enfin voilà, ils ont été chercher le pire du pire dans des manifestations de dizaines de milliers de personnes. Et donc avec le film, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de s'élever à un niveau supérieur en se disant il y avait quand même à cette époque dans ces manifestations des gens qui se posaient simplement des questions.
Oui, et qui avaient tout à fait le droit de le faire.
Et donc, on s'est dit, au lieu de faire un film qui tape sur quelques imbéciles, on va essayer de faire un film qui nous aide tous à avancer sur ces questions, qui nous aide à réfléchir avec les clés de la sociologie, etc. Et donc, on s'est emparé de questions qui nous semblaient plus légitimes, c'est-à-dire... pourquoi est-ce que il y a 20 ans le mariage homosexuel était impensable et pourquoi est-ce qu'il est devenu pensable aujourd'hui? Quelle a été l'évolution du mariage pour qu'aujourd'hui ça soit quelque chose de complètement pensable? Pourquoi est-ce que des couples homosexuels peuvent avoir envie de faire famille
aujourd'hui alors que la génération précédente peut le faire?
Mais c'est aussi comprenons l'évolution de nous tous pour comprendre notre propre évolution, pour comprendre le présent, pour comment a avancé l'aide médicale à la procréation pour les couples hétéros, hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui des couples homosexuels peuvent faire appel à un donneur, c'est parce que depuis très longtemps en France, c'est des choses qu'on pratique. Sauf que c'est assez tabou, on n'en parle pas trop, le droit ne nous incite pas trop à en parler, parce que même au niveau du droit, c'est un peu masqué, etc. Bref, c'est le moment de nous regarder en face. Et là-dessus, il y a des choses. La société a encore continué à réfléchir.
Alors, la société, certes, elle a avancé, elle a parfois reculé dans ses propos-là. Si on s'élève, nous aussi, du côté de ceux qui doivent nous représenter, à savoir les politiques, il y a eu quand même aussi de sacrés moments violents, hein, notamment celui de Christian Jacob dans l'Assemblée. Souvenez-vous de la manière dont il avait traité Christiane Taubira.
C'est trop facile, monsieur le président. C'est trop facile. l'indignité avec laquelle s'est exprimée Madame la Ministre. Vous êtes indigne, Madame la Ministre. Vous êtes indigne par le comportement qui était le vôtre.
Voilà, c'était Christian Jacob hein, pendant ces débats-là. Ça me fait penser, moi, je ne sais pas vous, hein, chers invités, mais aussi à Simone Veil, à un moment où elle est complètement fustigée au moment de l'avortement et de la pilule. C'est quand même... on reproduit le même schéma, là, la même violence. Oui,
alors, on n'a pas vécu l'année de la loi Veil, hein, on n'était pas nés, mais on s'est beaucoup servi de cet exemple dans ce film. Ça nous a... aider à nous projeter tout le temps plus loin, de voir après. Quoi. Mmh. Sinon, on aurait parlé de tout ce qui passait dans l'actualité pendant ces trois mois-là, de janvier à mars 2013, où tous les jours, on entendait des infos, mais qui, au regard de l'histoire, ne sont pas très intéressantes. Hein.
Indignité, vous les avez trouvées dignes, les responsables politiques pendant
Taubira, oui. Très, très digne. Ouais. Oui. Heureusement qu'elle était là, elle a tenu le...
Et pourtant, c'est celle qui se fait fustiger d'indignité.
Bah, oui, c'était
ouais. C'est intéressant d'avoir ces enregistrements, parce que j'aimerais... Enfin, Christian Jacob, aujourd'hui, trois années plus tard, il ne redirait jamais ça. Et ce qu'on a essayé de faire aussi avec le film, c'est nous intéresser au changement, d'une manière générale. Et c'est fou à quel point on oublie très rapidement qu'on a changé, on oublie très rapidement notre histoire courte. Et donc on ne se rend pas compte que cette période a été l'occasion de changer pour beaucoup de gens. Ça a été même c'est un changement dans l'histoire de la loi. Mais c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on oublie assez rapidement que des choses se sont dites au début des débats qui ne pourraient plus être dites aujourd'hui.
Comme
Ce qu'on entendait tout à l'heure.
Ouais, comme ce qu'on entendait sur...
La maladie, l'homosexualité, la maladie. Ouais.
C'est des choses qu'on entendait au mois de septembre-octobre 2012, et puis c'était beaucoup plus en sourdine après. On l'a entendu dans les médias au début des débats, et puis après c'est...
Porté par Escada, après ensuite par des représentants plus
c'était
radicaux.
C'était au creux des manifs...
Mais à la fin des débats, la manif pour tous est se revendiquer comme les meilleurs amis des homos. Et ils n'avaient aucun problème avec l'homosexualité.
Alors, il y en a une qui était sur les dance floors hein, des clubs gays. C'est quand même Brigitte Bardot. C'est quand même énorme. Elle a été une sorte de symbole des gays, hein, des homosexuels. Et puis elle est devenue une sorte de personnage assez atypique. Vous parliez de revenir sur ses propos. Elle l'a fait beaucoup, hein, entre 2012, 2013 et 2014, et puis ensuite elle a disparu un moment quand même d'anthologie à la télévision avec Morandini, on y revient. Elle aussi, elle est assez d'accord avec ses militants, écoutez.
Ça n'est plus même, ça ne concerne plus les êtres humains. Pourquoi pas le mariage entre des animaux?
Mais vous comprenez que c'est ce genre...
Il n'y a pas marqué être humain.
Vous comprenez que c'est ce genre de propos qui choque et qui fait que ça dérape?
Voilà, ça dérape.
Hein. Ça date de quand, ça?
Ça, c'était une émission en 2012, fin 2012, début 2013, à Morandini, avec Brigitte Bardot. Voilà, comment vous l'avez appréhendé, vous, dans votre documentaire, parce qu'il y a une scène absolument mémorable avec votre maman, Mathias Théry, Irène, donc, qui est opposée à Bardot dans une séance de maquillage absolument improbable, et puis elle se fait démonter avec des arguments scientifiques, très calmement, par votre maman, d'une sociologue, alors qu'on l'a vu, on a eu toujours du mal à la mettre en boîte, et en même temps, elle paraissait légitime dans le fait de porter une parole partagée par tous. Enfin, c'est difficile de la porter à l'écran.
Nous, je pense qu'au fond, on estime que ce qu'elle souhaitait, c'est du succès. Enfin, pas du succès, de la notoriété. Elle souhaitait être vue. Mais elle était assez caméléon dans tout ce qu'elle disait. C'est-à-dire que, comme on a observé son discours de septembre à avril, on a senti que, elle voguait au gré du débat, presque. Ouais. Et elle pouvait dire une chose au mois de septembre et son contraire en mars. Donc... on n'a pas trop creusé son discours, puisqu'on trouvait qu'il n'était pas très construit, tout simplement.
Pas très argumenté, quoi. Hein,
et que c'était difficile, vu qu'elle le brouillait avec des artifices de com', d'y voir clair. Donc c'est Irène qui voit clair. Elle arrive, à un moment donné dans le film, à bien...
c'est glaçant. J'aurais pas aimé être Brigitte Bardot.
À bien cerner ce que veut dire Barjot. Mais elle le dit jamais de manière frontale. Du coup, c'est pas évident.
Oui, parce que mine de rien, quand même, Barjot a travaillé. Hein. C'est-à-dire que elle s'est renseignée de près sur le code civil, la loi, etc. Et donc, on s'est quand même emparé de son argument qui reste aujourd'hui le seul qu'elle conserve encore contre le mariage pour tous. Qui a un argument assez précis, assez juridique sur la place des donneurs lorsqu'il y a donneur. La place du donneur quand il y a don de sperme, la place du donneur sur le livret de famille. Et donc, c'est-à-dire que son combat d'aujourd'hui, c'est de dire qu'on essaye d'effacer les parents biologiques lorsqu'il y a un don de sperme ou un don d'ovocyte. Et donc c'est assez précis, je vais pas m'étendre, mais en gros, on s'est dit quand même, là, il y a quelque chose à comprendre, et nous on a creusé un peu la question dans le film. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte qu'elle fait d'un combat technique sur la PMA un argument contre le mariage. Donc voilà, son combat, ça pourrait être faisons évoluer nos lois sur la PMA, et donc elle dit juste ça devrait annuler le mariage.
Elle dit c'est qu'elle est entourée d'homosexuels, qu'elle n'est pas dans une posture homophobe. Donc,
non.
C'est ça qui est étonnant, mais au fond, elle est peut-être pas homophobe, mais elle est entourée d'homophobes, c'est ça qui est...
Et elle s'est souvent appuyée, Brigitte Bardot, et on l'entendait aussi dans les extraits des manifestants de La Manif pour tous qu'on a entendu tout à l'heure, elle s'inspirait de la Bible, beaucoup. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut remettre à l'heure du recul que le documentaire que vous avez réalisé donne sur ces débats sur le mariage pour tous, c'est que c'était quand même un mariage civil. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet appel toujours à la religion, la Bible ou autre, hein, la représentation la présence des représentants du culte aussi, hein, juifs, musulmans.
Ah bah oui, il n'y avait pas que
les catholiques, attention. Hein, pourquoi, qu'est-ce qu'il foutait là en fait? Quelle légitimité avait-il à foutre dans un débat de mariage pour tous?
Ça...
Non mais c'est vrai.
C'est eux qui ont décidé de prendre la parole, surtout c'est ça. C'est-à-dire que quand même, c'est énormément l'Église qui a organisé la contestation, tout simplement. Donc, on leur a pas demandé s'ils pouvaient prendre la parole ou pas. Ils l'ont pris. C'est-à-dire que Brigitte Bardot, elle a rassemblé autour d'elle beaucoup de paroisses, beaucoup de représentants religieux. Donc, c'est eux qui ont décidé de prendre la parole. La France est un pays de culture
catholique,
oui, et religieux. C'est-à-dire qu'on a quand même un passé. Il y a énormément de familles qui se revendiquent de cette culture. Mmh. Et voilà. Et donc ils étaient troublés dans leurs racines.
On va terminer cette émission avec une petite interview mitraillette. Ça, j'aime bien. Je vous permets de vous transformer en quelqu'un d'autre. C'est l'interview Si vous étiez. Vous êtes dans l'instant 2.
Si vous étiez.
Alors on va faire une interview à deux voix, ça va être compliqué, mais si vous étiez, il y a quelque chose après, hein, Mathias Théry, ne vous inquiétez pas, si vous étiez, Mathias, tiens, un amour interdit dans la littérature ou dans le cinéma?
Ah super, un amour interdit dans la littérature.
C'est une question de notre réalisatrice Lauriane Toulemont, qui est derrière la vitre, vous pouvez lui cracher dessus si vous voulez. Peut-être Étienne, une idée avant, sinon vous avez un joker.
C'est dur, l'utiliser
joker,
maintenant.
Joker.
Un amour interdit, en plus dans la littérature ou le cinéma, quoi, merci.
Ah bah non, on élargit si vous voulez, Mathias, vous énervez
pas. Déjà,
il
faut le trouver, ensuite il faut qu'on y adhère. Quoi.
Ouais, c'est ça, non, c'est...
Bon, joker. Désolé. Non, c'est pas grave, si vous étiez un homme ou une femme politique que vous avez croisé pendant ces débats.
Christiane Taubira, mais...
Ok, Étienne Chaillou, il est fan.
Ouais, je suis très fan de Christiane Taubira.
Mais vous pourriez l'être, là, comme ça. Boum.
Oui, c'est Christiane Taubira qui nous reste... Bien sûr, qui nous a marqué pendant les débats, et puis le personnage aussi. Enfin, disons que c'est la seule personne qui amène un éclairage historique sur ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que même sur d'autres questions, ce qu'on a trouvé intéressant à son contact, c'est de voir qu'on ne parle pas que de nos petits débats là, comme ça tout de suite, on parle de où est-ce qu'on en est dans l'histoire de notre pays, voilà, prendre un peu de recul, un peu de hauteur.
Et de classe. Et distinction, quoi. On peut le dire aussi.
Ouais,
hein.
Et puis et même, c'est-à-dire de sens. C'est-à-dire qu'on a, les gens ont besoin de sens. C'est ce qu'essaye de faire Irène dans son métier, c'est de dire, on n'est pas juste là pour s'envoyer, pour faire des clashs. On est là pour essayer de donner du sens à ce qu'on fait, comprendre qu'il y a du symbolique, comprendre qu'il y a de la profondeur dans ce qu'on fait. C'est pas juste des voilà, on se balance pas juste nos petits avis à la face. Mmh. Et Christiane Taubira, elle aussi, nous rappelle, grâce à la littérature aussi, qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que d'être humain aujourd'hui, en 2016 ?
Bonne réponse. Si vous étiez un biopic, vous savez, il y a beaucoup de films qu'on peut réaliser sur un personnage. Sur qui ? Sur quel personnage vous aimeriez réaliser un film ? Oui, ça peut être vivant ou pas, hein, d'ailleurs.
Ouais, moi, j'aurais Étienne. Bien aimé réaliser un film sur Cabu.
Ah !
On avait d'ailleurs presque commencé, mais on avait abandonné pour des raisons personnelles, c'était pas le moment.
Non, c'était la production qui avait refusé Cabu.
Ah oui.
Bref, on avait rencontré Cabu pour faire son portrait.
J'aurais aimé faire un portrait de
Cabu. Bien sûr.
Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui vous aurait plu. C'est raté. Faudra attendre là-haut peut-être si vous le croisez. Si vous étiez une loi qui resterait à faire à François Hollande, là, un an et deux mois à présent.
Une loi, bah, j'aurais aimé qu'il s'attaque à la finance, là, comme il avait promis au début.
Ouais. Pas la PMA ou la GPA.
Si, on la rajoute
aussi.
Allez,
aussi, mais il aurait dû le faire en 2013. Mais,
ouais, pourquoi il n'a pas fait, à votre avis ?
Ah, bah, il a eu peur.
Il a eu peur.
Il a eu peur de la manif pour tous.
Frileux.
Ouais,
c'est d'ailleurs
ça.
Le début de l'amollissement total de François Hollande à ce moment-là.
Oui, c'est vrai. Parce qu'il avait promis dans son discours de candidat.
Ouais.
Si vous étiez, on va finir là-dessus, une famille idéale. Elle serait comment, votre famille idéale ouais. La mienne.
Ah, évidemment. Ouais.
C'est famille recomposée. Votre maman, Irène Théry, a quand même créé le terme. Je ne savais pas. Famille recomposée. Ouais.
Bah, on ne peut pas parler d'une famille idéale. C'est exactement ce qu'on ne veut pas faire.
Voilà, mais vous m'amenez à la réponse que je voulais. Donc,
je dirais la famille idéale, c'est peut-être, on va dire, une famille où on parle et on essaie de se prendre en compte les uns les autres, où on n'essaie pas de se faire rentrer les uns les autres dans des cases, et peut-être où on s'aime et où on s'écoute. Voilà.
C'est joli. C'est un grand tendre, en fait, hein, Mathias Théry. Grand sentimental. Étienne Chailloux, vous avez choisi une chanson, vous aussi. Laquelle ?
Alors, j'ai choisi Mélocotone de Colette Magny,
ouais.
Qui est une discussion de deux enfants dans un jardin public.
Ben voilà, de la famille à l'enfance, il n'y a parfois qu'un pas. On l'écoute et puis on terminera ensemble cette émission de l'instant 2 du mois d'avril.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotone, nous, elle est maman. Tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnelle est grande, presque comme maman. Elle joue pas avec moi. J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? C'est rien, viens, donne-moi la main.
C'est joli ça, Étienne Chailloux, notre réalisateur.
Oui,
bah oui,
c'est
bah
oui. Oui, oui, une chanson que j'aime bien, que je rapproche un peu du thème, évidemment, puisque c'est des questions de deux enfants. On voit bien que des questions très simples.
Ouais.
Et c'est parce que tout au long de l'année, j'ai senti que les enfants, on leur a fait dire n'importe quoi aussi. Quoi. On a voulu les
dans
mettre dans les
cases.
Dans
ces débats du mariage pour tous.
Ils étaient ramenés aux manifs, dans l'une et l'autre aussi. Après, je pense que dans les manifs pour, c'était sain, puisque ça montrait il n'y avait pas vraiment de problème à l'éducation des enfants dans les familles homoparentales. Voilà, donc c'était
ouais, puis moi, ce que j'entends dans cette chanson, c'est que les enfants, c'est des personnes et qu'ils ont une subjectivité et que vivre en famille, c'est vivre en, en relation avec les autres. Et alors que dans, dans les débats, on a beaucoup utilisé les enfants comme des objets abstraits, en, faisant, en nous faisant peur, comme ça, en disant les gens vont acheter des enfants, c'est des objets de consommation, ouais, etc. C'est ne pas prendre en compte
ah bah bien sûr.
Que faire famille, c'est, être en, dans des, c'est une des relations les plus fortes. Les
dans
plus le fortes
choix
qui soient.
Aussi, dans les questions du choix, hein, de ouais. choisir de faire famille.
Oui, bien sûr.
On n'oblige ouais. pas à le
et
faire.
Puis, et puis voilà, on ne peut pas imaginer une seconde qu'un parent décide qu'un enfant soit un objet.
Puis dans votre documentaire, ce qui est intéressant, et on finira là-dessus, c'est que vous redonnez, je trouve, vous redorez le blason de la question simple. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça a été un choix, j'imagine, parce qu'il y a ce rapport hein, avec votre maman, Irène Théry, qui est sociologue, la sociologue. Et l'ourson, c'est vous, l'ourson, peut-être ?
Oui.
J'étais sûre. Et, mais bon, je demandais au cas où. Et y a, c'est bien aussi de poser des questions un peu frontales, un peu simples, comme, comme si vous étiez un enfant, finalement, de 35 ans.
Ouais. On a assumé le côté un peu naïf, comme ça, des questions, mais on avait besoin de comprendre les points de départ, le point de départ de l'histoire. Et aussi, on s'est quand même beaucoup appliqué à rendre un discours sociologique qui pouvait assez complexe, à le rendre plus simple et à l'incarner dans des histoires. C'est-à-dire que nos marionnettes deviennent des personnages, mmh. on peut se promener dans l'histoire, on rentre dans la vie des gens, etc. Et on se rend compte que ce dont nous parlons, c'est de la vie des gens.
Tout simplement. Merci en tout cas Étienne Chailloux et Mathias Théry de la douceur et de la tendresse de votre regard. Merci d'avoir éclairé un passé avec les nuances et l'argumentaire qu'il se doit.
Ouais, le film est projeté bientôt à Marseille.
Bien sûr, et là il est sorti en salle le 6 avril. On vous souhaite bonne chance hein, sur les écrans, on croise les doigts. La sociologue et l'ourson, je le répète, on pourra le voir, hein, ce film à Marseille, vous l'avez vu, tiens, on a quelques dates, on va les donner. Qu'est-ce que vous en pensez ? 27 avril à l'Alhambra pour profiter de la mer et puis aller voir un bon film avec la présence de Marcel Ruffo et d'Irène Théry, votre maman, et vous-même, Mathias. Et puis aux variétés, ce sera au mois de juin. On en reparlera sur Radio Grenouille, bien évidemment. Merci également à la délicatesse et au sérieux de Claire de Ciné Sud Promotion et à Marianne pour sa mise en lien de Doc 66. Voilà, on croise les doigts et puis aimons-nous les uns les autres, qu'importe la couleur, seul l'amour porte et compte. Merci à Radio Campus Paris de nous avoir accueillis pour enregistrer cette émission. Étienne, Mathias, bonne chance à vous.
Merci à vous.
Et vive le sociologue, la sociologue et l'ourson.
Merci, au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
L'instant 2 sur Radio Grenouille. Instant.
La nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais ployer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.